Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour donc ce nouvel épisode du podcast de Kebdo, un podcast où on va prendre de l'altitude, mais pas seulement. Vous l'aurez donc compris, on va notamment se rendre du côté de Salt Lake City chez le Utah Jazz, mais avant de parler également des playoffs qui se rapprochent, on va accueillir nos deux comparses du jour, à commencer donc par celui qui lit tout, vos commentaires, vos tweets, mais aussi vos réponses à nos questionnaires comme cette semaine, c'est Ben. Comment ça va, Ben?
Ça va très bien, Adrien, aussi bien que Paul Pierce un vendredi soir. Ça va vraiment très très bien.
Vous avez le même coiffeur.
Et ouais.
Les références obscures d'entrée.
Non, on n'a pas le même coiffeur. Ça se voit à la caméra, moi, le coiffeur, je n'y ai pas tout le temps. Ouais, et du coup, pour rebondir, on vous remercie pour toutes vos réponses à notre questionnaire que j'avais mentionné la semaine dernière. Certains d'entre vous ont pris vraiment du temps pour nous répondre et nous offrir des retours très constructifs. Donc, on vous remercie vraiment.
Tout à fait. Et donc, notre troisième larron aujourd'hui, c'est celui qui s'en est donné à cœur joie ces dernières semaines avec le grand sujet des buyouts. C'est évidemment notre expert financiaro-basketologique, on va dire, quelque chose comme ça. C'est Tom, évidemment. Comment ça va, Tom?
Ça va, vous, les gars? Bien, bien. La forme.
Bah oui, ravi d'être là, ravi de pouvoir enregistrer un peu avec la lumière du jour, en tout cas pour le début de podcast, avec le changement d'heure. On verra où ça nous mène. Vous pouvez bien sûr voir ça sur YouTube. Vous pouvez toujours également nous retrouver sur les plateformes de podcast. Et justement, on va l'attaquer, ce podcast. On va parler donc cette semaine du Jazz de Utah et des, entre guillemets, équipes de saison régulière et équipes de play-off. Vous écoutez le podcast de Kebdo et c'est parti. Alors cette semaine, dans le podcast de Kebdo, on s'attaque à une équipe qui fait beaucoup parler, une équipe qui performe régulièrement en saison régulière, peut-être un peu moins en play-off, on va y revenir dans la deuxième partie du podcast, mais pour commencer donc, on parle de l'équipe en tête de la NBA actuellement, une équipe de l'Ouest bien sûr, une équipe d'altitude, le Utah Jazz de notre cher Rudy Gobert évidemment. Alors messieurs, on attend toujours le Jazz dans le haut du classement NBA en début de saison, peut-être pas à la première place, il faut l'admettre quand même. Donc je pense qu'on peut parler d'une légère surprise de les voir aussi haut, le Jazz qui continue d'évoluer. Et je vais vous laisser la parole pour commencer donc à définir cette équipe. On va commencer, on va taper large. Tom, qui est cette équipe du Jazz qui domine actuellement le classement NBA? Quelles sont ses forces, ses faiblesses, son identité? Est-ce qu'elle évolue, cette identité? Qui est le Jazz?
Le Jazz, c'est une équipe qui a cette saison, en début de saison, on a bien compris avec l'arrivée par exemple de Derek Favors et un peu le fait de reconduire toutes les personnes qui étaient là, c'est une équipe qui voulait pas perdre de temps et pour s'assurer d'avoir un des meilleurs bilans de la ligue. Puisque eux, je pense que pour aller au moins en finale de conférence, il faut qu'ils évitent un maximum, enfin le plus possible entre guillemets les deux ogres de Los Angeles. Donc du coup, le meilleur moyen de faire ça, c'est d'avoir le meilleur bilan de la conférence Ouest. Comme ça, ils se retrouvent pas dans le même bracket et les autres s'affrontent en 2 et 3. Donc c'est une équipe qui s'est attelée à faire ça en accentuant encore un peu plus ses forces en défense et en allant encore un petit peu plus loin dans ce qu'il faisait offensivement. Donc en défense, on connaît le Jazz du classique de saison régulière avec Rudy Gobert, l'un des ou probablement le meilleur défenseur intérieur en saison régulière sur tout ce qui est couverture de pick and roll, la couverture en drop où il va par exemple sur le jeu du pick and roll glisser un peu vers la raquette et laisser l'espace au porteur de balle pour le laisser opérer à une distance et contrôler en fait l'accès à la raquette. Donc c'est quelque chose que cette saison ils font vraiment très très bien, le Jazz encore mieux que la saison dernière. Et puis offensivement, c'est une équipe qui a augmenté son plancher et son plafond avec un facteur de variance en prenant un maximum de shoots à 3 points. Donc, je pense qu'ils prennent un peu moins de shoots au cercle et les shoots qu'ils prenaient au cercle sont remplacés par des tirs à 3 points. Donc, du coup, vu que c'est un équilibre à peu près mathématique, ils vous donnent beaucoup de shoots à distance et eux prennent beaucoup de chutes à 3 points. Donc mathématiquement, c'est quelque chose qui leur permet d'avoir un plancher plutôt haut et du coup d'avoir énormément de variance, parce que quand ils mettent leur tir, on va le voir en termes de pourcentage d'adresse, c'est l'une des meilleures équipes à 3 points dans la NBA et c'est l'une des équipes qui prend le plus, enfin la plus grosse proportion de ses shoots à 3 points. Donc du coup, avec cet ajustement mathématique, tu as un plancher hyper haut pour pouvoir du coup engranger un maximum de victoires contre des équipes moyenne et faible de la NBA, et là où tu es sur des équipes plus fortes, tu es sur une proposition à 50-50 avec la variance du pourcentage de tir.
On a une définition assez complète, Ben, pour te relancer si tu veux ajouter 2-3 choses. On a effectivement donc un Jazz qui est meilleur offensivement que ce qu'il a été ces derniers temps. Est-ce qu'on est donc, je mets des guillemets, avec un Jazz sous stéroïde?
Oui, c'est l'expression que j'ai utilisée avant qu'on débute l'enregistrement. Oui, pour moi, c'est une version sous stéroïde de ce qu'on a vu la saison dernière, parce que la saison dernière, on avait la grève de Mike Conley qui a été un peu plus difficile que ce qu'on avait pu anticiper. Faut pas oublier que dans la bulle, là où il y a eu le fameux affrontement face à Denver, on n'avait pas Bogdanovic, il était pas là. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ont fait que on n'a pas vu cette version finale du Jazz là où, comme l'a pu le dire Tom, cette saison, ils sont venus avec globalement les mêmes joueurs. Favors a fait un aller-retour rapide avec la Louisiane, il est revenu. Et dans cette conférence ouest-là, mine de rien, c'est extrêmement important. Quand on regarde parmi les autres cadors, les Clippers ont eu un changement de coach, les Lakers ont changé pas mal de joueurs et ils ont eu des blessures, Denver a perdu Jeremy Grant et a été recherché Aaron Gordon, il y a eu des problèmes pour s'adapter, Phoenix, qui est deuxième en NBA à l'heure actuelle, a eu un changement total avec l'arrivée de Chris Paul. Enfin bref, beaucoup d'équipes ont changé, je parlerai même pas d'Houston. Enfin bref, il y a eu beaucoup de changements et eux, ils ont deux choses pour eux, ils ont déjà cette continuité et ils se blessent pas. Rudy Gobert, Royce O'Neal, Bogdanovic ont raté aucun match. Jordan Clarkson a raté aucun match. Pour ce qui est de Favors, on est à 2 matchs ratés. Ingles, 4. Donovan Mitchell, 3. Celui qui en a raté le plus, c'est Mike Conley, une petite dizaine. Quand on sait cette année que sur les 20 premiers matchs de la saison, il y a eu autant de matchs ratés que sur les 20 des 5 dernières saisons combinées, forcément, être en bonne santé, c'est un gros facteur. Donc bien sûr, j'ai expliqué des facteurs un peu extérieurs, mais bien évidemment, on va y revenir. Cette équipe du Jazz, offensivement, comme l'a dit Tom, elle a adapté un style de jeu analytique et où, grâce à son jeu de passe, elle annihile totalement les petites équipes, et même face au cadre de la NBA, elle est extrêmement dangereuse.
Ouais, donc un bilan plutôt flatteur pour l'instant de ce Jazz. Effectivement, de toute façon, ils sont en tête de la NBA, donc forcément, c'est qu'il y a des choses qui vont bien, hein, bien sûr, faut le dire. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vont moins bien? Je sais pas lequel de vous veut rebondir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut pointer comme faiblesse chez ce Jazz qui, effectivement, comme tu l'as dit, Ben, s'est renforcé, notamment avec donc Bogdanovic qui est là maintenant. Il y a Derek Favors qui est de retour. Il y a Jordan Clarkson qui est peut-être le sixième homme de l'année. On peut sans trop s'avancer dire qu'il est quand même très bien placé dans cette course-là. Donc, quel est le problème de cet effectif du Jazz qui semble, sur le papier, là, bon partout?
Moi, je dirais deux choses. Alors, la première chose, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont en tête de la NBA et qu'ils ont un tel rythme. Est-ce qu'ils vont pas être du coup un peu fatigués? Est-ce qu'ils vont pas s'essouffler? Est-ce qu'ils sont pas en forme trop tôt? Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra peut-être surveiller avec le temps, puisque comme Ben l'a dit, il y a très peu de matchs manqués. Ils jouent pas mal de temps. Alors même s'ils ont le calendrier restant le plus facile à prendre avec des pincettes, hein, à prendre des pincettes, cet indicateur. Dans le calendrier des plus faciles de la ligue, on ne sait jamais, on est à l'abri de rien. On a vu cette semaine avec ce qui s'est passé, par exemple, par rapport à leur avion. Voilà, on n'est jamais à l'abri, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui pourrait se passer. Après, de point de vue terrain, les rares fois où ils ont été en difficulté cette saison. Alors, ils ont eu des problèmes, notamment par rapport à leur défense. Comme on l'a dit au tout début, ils proposent beaucoup de drops, avec parfois un peu de edge et tout ça, et Rudy Gobert doit aller un peu plus sur le périmètre et contenir les défenseurs. Alors, il y a plusieurs choses qui leur ont posé un petit peu problème. La défense en switch, donc le switch entre guillemets all, par exemple contre les Clippers qui finissent les matchs avec Markif Morris en 5. Il y a eu la deuxième mi-temps du match face à Dallas. Alors ils avaient battu Dallas ce jour-là, mais la deuxième mi-temps, là où Dallas a utilisé Kristaps Porzingis pour faire énormément de pick and pop. Donc là, on a vu la défense un peu de Utah un petit peu en difficulté pour gérer cette situation-là, puisque voilà, forcer Rudy Gobert à sortir, ça ouvre les pénétrations des joueurs adverses, puisque Rudy Gobert, c'est lui qui assure la protection de la raquette, et quand lui il est pas dans, quand lui il est sur le périmètre, bah c'est difficile en fait de trouver de la protection de cercle secondaire via les autres joueurs. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'attaques indirectes, c'est-à-dire qu'on fait sortir Gobert et ensuite t'as un swing pour que un autre joueur attaque le mix match alors que Gobert n'est pas dans la raquette. Donc ça c'est quelque chose aussi qui l'aura aussi posé problème. Et puis dernière chose que j'ai pu voir, c'est toujours c'était notamment dans le match des Clippers, c'est en fait d'impliquer le joueur que Gobert ne surveille pas dans des actions de dribble and off et du screen. Et en fait, on l'a vu avec, par exemple, encore dans le match des Clippers, en fin de match, t'as Patrick Beverley qui se retrouve seul souvent, tout simplement parce que, comme Gobert ne le prend pas forcément, puisque Gobert, il va, entre guillemets, se cacher sur le joueur, le joueur, entre guillemets, le moins dangereux offensivement du 5. Du coup, ça crée des mismatchs, une confusion, et tu te retrouves avec un shoot qui est pris par l'adversaire, grand ouvert.
Ce qui est intéressant, notamment là dans ce que tu pointes, Tom, même si tu parles beaucoup de défense, c'est que tu as beaucoup cité le nom de Rudy Gobert. On est sur le Jazz, donc une équipe de système tout de même, avec un collectif assez fort, mais dont la défense notamment est basée autour de Rudy Gobert, des qualités de Rudy Gobert, des qualités et des défauts d'ailleurs de Rudy Gobert. Mais en tout cas, c'est lui qui est au centre de leur stratégie défensive. Et offensivement, est-ce que c'est pareil, Ben, pour toi? Est-ce que les défauts qu'on peut pointer du côté du Jazz se situent sur le fait qu'ils soient enfermés dans un style très fermé autour d'un joueur, peut-être plus?
Alors, pour moi, les principaux défauts... le Jazz, faut être honnête, là on est sur du détail. Hein. C'est quand même une équipe qui roule sur la NBA. Donc, actuellement, on est sur du détail. Moi, ce qui m'a beaucoup... On pinaille vraiment. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est moi, j'étais clairement dans une démarche où j'ai regardé les matchs qu'ils ont perdus ou les matchs où ils ont galéré. Je les avais vus dominer en début de saison. J'ai voulu me dire, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on les voit dominer, le Jazz, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand ça marche pas? Souvent, quand ça marche pas, c'est un des revers qu'on a pu voir avec les Bucks, parfois, les années précédentes. Quand une équipe écrase tout le monde, il y a un problème dans les fins de match. C'est-à-dire qu'ils jouent jamais de fin de match serré. Et je trouve qu'on se retrouve un peu dans une caricature où le Jazz abandonne parfois son jeu doté de passes, comme l'a dit Tom, pour décaler, trouver le joueur écarté, souvent à 3 points, trouver le joueur libre. Et parfois, on va tomber sur du Donovan Mitchell hero ball parce que les mecs close out plus vite. Sur les écrans, ils sont plus... En fait... Tout est plus rapide sur une fin de match serrée et je trouve que le Jazz déjoue. Statistiquement, je trouve qu'il y a un truc super intéressant dans les minutes clutch, selon la NBA, donc moins de 5 minutes, 5 points ou moins d'écart. Donovan Mitchell a pris 43 tirs. Bogdanovic, Conley et Gobert en ont pris 49. C'est-à-dire qu'il en prend presque autant que les 2, 3, 4 de son équipe. Et le problème, c'est que ça, c'était déjà le cas la saison dernière et en playoff, c'était caricatural parce que Mitchell prenait plus de tirs dans les fins de match que toute son équipe réunie. Donc ça, c'est un petit problème pour le Jazz, c'est leur capacité, je trouve, à ne pas retomber sur du Donovan Mitchell hero ball dans les fins de match. Parce que les fins de match serrés, ils vont en jouer en playoff et peut-être qu'ils tomberont pas sur un Jamal Murray incandescent, mais le fait est qu'ils doivent retrouver cette variété qu'ils ont pendant le reste du match quand c'est serré. Je pense au match contre Miami, qui vont perdre à Miami, où Donovan Mitchell sur la fin de match essaye de porter l'équipe. Le match contre les Clippers, c'est pareil. Le match contre les Sixers, un peu... Ah non, il est sorti dans le match contre les Sixers, mais il y a beaucoup de matchs où il porte un peu à la fin, et je trouve qu'ils doivent retrouver leur jeu sur les fins de match serrés.
Mais c'est ça l'un des problèmes de...
Est-ce que t'es d'accord avec ça, Tom? Parce qu'on rappelle quand même que le Jazz a... Je t'en prie, un offensive rating très très élevé cette année. Ils sont les deuxièmes de la ligue, si je dis pas de bêtises, je les ai plus sous les yeux. Est-ce que justement, un de leurs défauts, c'est le clutch? Est-ce qu'ils déjouent dans les fins de match un peu serrés?
Ça, c'est un peu l'un des problèmes de leur équipe, le Jazz. C'est-à-dire que t'as personne qui va pouvoir, à part peut-être Donovan Mitchell, pouvoir créer un décalage brutal en fait sur un vis-à-vis. Mais en fait, t'as beaucoup de joueurs qui sont capables de, lorsque l'avantage est fait, de pouvoir l'amplifier. Puisque t'as très peu de ball stopper, à part peut-être Clarkson et Donovan Mitchell quand lui il est pas à l'initiation. Une fois que le ballon quitte leurs mains, en fait t'as énormément de joueurs qui font bouger la balle et du coup qui te permettent d'amplifier l'avantage que tu avais déjà pour trouver finalement le bon shoot. Et puis le Jazz, ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils ont un avantage, plutôt qu'aller essayer de finir sur le petit avantage qu'ils ont déjà, ils vont par exemple enchaîner par exemple des driving kicks jusqu'à ce qu'ils trouvent le shoot parfait qui est pour eux le corner, le 3 points dans le coin à 3 points. Donc c'est ce qu'ils recherchent sur la plupart de leurs possessions, ou le lob vers Rudy Gobert. Donc c'est un truc qui font souvent, mais c'est peut-être beaucoup, c'est plus difficile en fait à faire ça, je pense, en fin de match. Et puis t'as la notion de jeu d'écran. Le Jazz, c'est l'équipe qui joue le plus de pick and roll de l'NBA. Sauf que quand tu fais face à une défense en switch, ben c'est beaucoup plus difficile en fait de créer l'écart sur le pick and roll, puisque ben voilà, le switch est fait pour limiter l'espace et l'écart que tu pourras avoir. Donc ça, c'est quelque chose qui pose problème. Alors on a vu quelques petites choses qu'ils ont essayé de mettre en place, notamment avec Donovan Mitchell en posant. Cette année, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, c'est que il joue le pick and roll beaucoup plus haut avec Rudy Gobert. Alors comme ça permet d'ouvrir le terrain, d'avoir plus de champs des possibles. La progression, enfin, ce qu'il il pouvait pas le faire l'an dernier, puisque Rudy Gobert était assez limité. Par exemple, une fois que le ballon quittait les mains de Donovan Mitchell et que par exemple et que Rudy Gobert était au niveau de la ligne à trois points, mais du coup il avait tendance peut-être à se bloquer et il trouvait pas forcément la passe directe pour jouer directement sur le short roll. Là par exemple, dans le match face à Chicago, ils ont joué cette action là plusieurs fois, et tout de suite, par exemple, Donovan Mitchell, il lâche le ballon à Rudy Gobert au niveau de la ligne à trois points. Pendant qu'il descend, il trouve tout de suite un joueur dans le coin. Donc je pense que le fait que Donovan Mitchell ait développé en fait une habilité à être beaucoup plus dangereux sur le pull-up à trois points et à trois points en général, puisque Donovan Mitchell cette saison il a 40% à trois points, et que Rudy Gobert dans l'axe panier-panier, il arrive à, une fois qu'il a le ballon au-dessus de l'arceau, enfin une fois qu'il a le ballon dans l'axe, il arrive à trouver des places et faire du playmaking sur short roll, ça leur offre une valve de décompression pour pouvoir mieux jouer en fait leur système et continuer à trouver leur décalage. Le problème, c'est que arrivant en fin de match, ce sont des actions que tu as plus forcément, et des décalages, ils vont se faire essentiellement sur du 1 contre 1 pour après exploiter d'autres mismatchs.
Puis pour Rudy Gobert, je te laisse continuer Adrien, c'est mécanique, c'est un intérieur, au bout de 40 minutes de temps de jeu, si on s'imagine par exemple sur des playoffs, aller poser l'écran, monter, claquer le dunk, c'est plus le même effort physique aussi.
Ouais, mais ce que vous dites tous les deux, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas la question de la répétition? Finalement, le parallèle avec les Bucks aussi était bon. Ils jouent pas forcément souvent de matchs serrés, puisque justement, ils annihilent la plupart des gens. Et comme tu disais, Tom, la plupart de leurs possessions sont sur du pick and roll. Ils utilisent très, très souvent le pick and roll en début de possession, et pour créer des shoots, tout simplement. Très peu d'ISO. Ils sont l'équipe qui en, la troisième équipe qui en utilise le moins, ouais, il me semble. Donc très, très peu. Et arriver en fin de match serré ou dans des moments de play-off où tu vas te retrouver à devoir, dans ton jeu, avoir une ISO, utiliser justement, ne pas utiliser Gobert comme poseur de pique, etc. Tu manques de répétition à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas là un des dangers pour le Jazz, notamment dans l'optique des playoffs?
Je pense que si. Alors, j'avais vu ça il y a quelques semaines. C'était le Tony Jones qui écrit pour The Athletic pour Utah. En gros, il y avait un débat, Utah a pas des bons joueurs d'ISO, et en gros, lui rigolait, et il y avait la fanbase d'Utah qui aux États-Unis est assez le syndrome du petit frère, clairement par rapport à toutes les autres équipes NBA. Et pour moi, c'est là un des, entre guillemets, problèmes fondamentaux du Jazz. C'est que oui, ils ont des bons, là c'est en l'occurrence good mec en isolation. Sur une fin de match, sur des playoffs, il faut pas être good, il faut être élite. C'est là la grande différence, là où je pense que Donovan Mitchell l'est. Mais par exemple, hein, Jordan Clarkson, on regarde ses stats, alors l'échantillon est très très faible, mais en ISO sur les playoffs la saison dernière, il est pas bon. Et c'est ça en fait, je pense, qu'une fin de match met en avant. Tom l'a dit, c'est la création de décalage. C'est aussi que tout simplement, l'équipe d'en face, quand elle a pris 30 pick and roll Mitchell Gobert dans le match, elle s'y adapte un peu mieux. Et c'est là où c'est intéressant de regarder les équipes qui jouent le Jazz 2-3 fois et les équipes qui ont un bon niveau. Au bout d'un moment, sur le troisième match, on reparle des Clippers. Moi, je parle du Heat qui avait joué le Jazz quelques semaines avant. Ils se font plus avoir sur le pick and roll comme avant, parce qu'en fait, ils réagissent plus vite. Et on parle de deux équipes qui ont une puissance de feu aussi en défense. Donc oui, c'est un des problèmes du Jazz. Après, il faut peut-être pas le surestimer, mais c'est un problème.
Ouais. Surestimer le problème, oui, hein, on est d'accord. Oui. La transition est parfaite, je pense qu'on va pouvoir développer encore sur le Jazz, mais justement, tu as commencé à parler d'adaptation, de jouer plusieurs fois la même équipe. Donc, un des sujets autour du Jazz qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui, c'est les playoffs, les équipes de saison régulière et les équipes de playoffs. Et justement, un des reproches qu'on fait régulièrement au Jazz depuis plusieurs saisons, c'est son efficacité en saison régulière, ses bons bilans et son incapacité, on va dire, à passer un cap supplémentaire en playoffs pour devenir un contender sérieux en NBA. Donc, avant de revenir au cas appliqué Jazz et peut-être d'autres équipes, sûrement d'autres équipes qu'on va évoquer, Quelles sont les différences majeures entre les saisons régulières et les playoffs? Il y a notamment, tu as commencé Ben avec ses adaptations, tu joues plusieurs fois la même équipe, donc il y a ce fameux adage, il y a certains clichés, mais il y a aussi des différences qui sont réelles, hein, des différences de calendrier notamment, des différences dans le jeu. Tom, quelles sont pour toi les différences principales entre une série playoff et toute une saison régulière pour définir ces équipes, saison régulière, équipe de playoff?
Je pense que la première chose, c'est vraiment la notion de match-up. En saison régulière, tu te prépares pas vraiment sur des match-up, tu te prépares sur, par exemple, un système qui va fonctionner contre 80% des gens. Là où, pour les playoffs, tu dois te façonner ton équipe et les forces de ton équipe par rapport à un adversaire qui n'a peut-être pas les mêmes faiblesses que tu rencontrerais chez les équipes qui sont un petit peu moins fortes. Autre chose, ben, pendant les playoffs, on l'a vu un peu avec le phénomène de la bulle, tu enlèves les équipes faibles en fait de l'équation. Les équipes faibles ne sont plus là. Donc du coup, t'as beaucoup moins de place à l'erreur, et le niveau d'adversité que tu rencontres est aussi beaucoup plus élevé, puisque quand tu vas affronter les cadors de la NBA, ben les détails ont une toute autre importance que ce qui pouvait passer en fait contre des équipes plus faibles. Et toujours sur le niveau de détail, un truc que je trouve qui est hyper important au niveau des playoffs, c'est la notion de flexibilité, de polyvalence en fonction des adversaires que tu peux rencontrer, puisque la façon dont tu peux pas en fait garder le même jeu et espérer que ça fonctionne, puisque les équipes que tu rencontres, elles vont s'adapter et auront les moyens de s'adapter, et au final ce que tu vas faire ne marchera plus comme avant, et tu vas être obligé de trouver d'autres solutions pour pouvoir maximiser tes forces tout en minimisant tes faiblesses.
Ouais, il y a d'autres aspects, il y a quelques nuances, je vais te relancer là-dessus Ben, si je te paraphrase Tom, en gros la saison régulière c'est apprendre à jouer, à trouver ton identité, à jouer de la façon dont tu as envie de jouer, et les playoffs seraient apprendre à utiliser ton basket contre un adversaire particulier. Ouais. Mais il y a aussi cette question de l'identité dont on parle, est-ce que à quel point si tu changes trop d'identité pendant les playoffs, ça peut être aussi préjudiciable? Ben,
ah bah c'est le niveau d'adaptation que tu veux donner. C'est ça, c'est une des questions centrales. C'est une des questions dont on débat souvent avec Tom ici présent. C'est en gros, quel niveau d'adaptation tu es prêt à offrir en playoff? Et s'il n'y a pas un moment où tu t'adaptes tellement que tu te trompes, parce qu'en réalité, tu déjoues sur tes points forts. Alors ça, tout dépend déjà, je pense, de comment tu abordes le tour de playoff. Si, bien sûr, t'es huitième dans la conférence, tu joues le premier, tu auras pas la même attitude que si on est sur une finale de conf 1-2. Déjà, ça, c'est sûr. Ensuite, je rejoins Tom sur la notion que les détails sont importants, mais pour moi, c'est indépendamment du style de jeu. C'est-à-dire le fait, par exemple, qu'il y ait moins de transition en playoff. Alors oui, pour une équipe qui joue beaucoup la transition, ça serait un problème, mais en réalité, toutes ces équipes doivent s'adapter à cette donnée-là. Il y a moins de coupes, parce que les équipes sont beaucoup plus, surveillent beaucoup plus. Donc je pense qu'il y a une notion d'adaptation qui est réelle, mais elle est là pour tout le monde. On prend l'exemple des Lakers ou de Miami l'année dernière, ils arrivent en playoff, ils offrent deux ou trois solutions. La capacité, c'est plus qu'une capacité d'adaptation, c'est plutôt, alors là on va dire que je nuance, je joue sur les mots, c'est plutôt une capacité à répondre à des coups en fait, et plus que s'adapter, c'est plutôt dès qu'on te pose un problème, est-ce que t'es capable d'y répondre, et on y reviendra, c'est un, pour moi c'est un de mes grands problèmes avec le Jazz.
Oui, mais parce que justement là tu dis que toutes les équipes doivent s'y adapter, mais c'est quand même plus simple pour une équipe qui joue beaucoup en demi-terrain pendant la saison régulière de s'adapter au fait qu'il y ait moins de transition en play-off. Phoenix. Qu'une équipe, je caricature et je salue Pierre au passage, une équipe de Russell Westbrook qui justement bat son jeu sur énormément de transitions, et c'était par exemple le cas quand il devait jouer Houston à l'époque, Russell Westbrook, où on sentait effectivement qu'il y avait ce souci là il y a aussi moins de rebonds offensifs dans les playoffs, les shoots pris sont aussi le mieux défendu, hein, comme tu l'as dit, il y a moins d'espace pour les shooters, donc forcément certains shoots perdent en efficacité, et on va avoir certains skill sets de certains joueurs qui sont capables de rester efficaces sur leur prise de shoot qui vont devenir de plus en plus importants. Et là, quand même, le profil de ton équipe, je sais pas Tom, tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, mais le profil de certaines équipes est peut-être plus adapté, leur jeu en saison régulière est plus adapté à l'adaptation au jeu un légèrement différent qu'on retrouve en playoff.
Bah ouais, totalement, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Moi je dirais que par exemple la saison régulière c'est vraiment tu maximises tes forces, là où les playoffs tu dois minimiser tes faiblesses, parce que il y a vraiment une notion de maximisation des forces, c'est-à-dire t'as ton plan de jeu, peu importe ce qui se passe, on joue comme ça en saison régulière et après on voit, on s'adapte, puisque l'idée c'est de gagner le plus de matchs possible en montrant le moins de cartes possible pour justement les playoffs. Donc je pense que c'est plutôt comme ça, alors que en playoffs t'as vraiment une notion de vraiment montrer aucune faiblesse, parce que à partir du moment où l'adversaire va voir une faiblesse et qu'il va être capable de l'exploiter, ben, il va jouer cette action-là. Par exemple, tu vois la chasse au mismatch. En saison régulière, c'est pas quelque chose que tu vois souvent. Enfin, même si tu le vois de plus en plus, c'est pas quelque chose que tu vois souvent, sinon tu vas le voir uniquement en fin de match. En playoff, dès qu'il y a un mec qui doit être ciblé, les possessions n'ont pas le même, on va dire que une possession en playoff, elle a beaucoup plus de valeur, et du coup, ce qui va se passer, c'est que les joueurs et les équipes vont essayer de fonctionner plus sur un rapport de shoot mis que rentabilité du shoot pris. Puisque mettre un panier, c'est aussi éviter que l'adversaire parte en contre-attaque, c'est forcer l'adversaire à repartir dessous de son panier et de positionner ta défense quand elle arrive. Alors que si tu prends un shoot d'irrentable, si tu le rates, ben, t'as plus de chances de te faire exposer après en transition. Et du coup, comme on sait que, ben, généralement, on te dit que la meilleure défense, c'est l'attaque, ben, quand t'as la balle, plus tu as des possessions que toi tu peux gérer et tu peux gérer le tempo, ben plus tu as la balle, ben moins tu as des chances de te faire scorer dessus parce que l'adversaire ne l'a pas.
Est-ce que la question finale, du coup, Ben, c'est pas, en résumé, la pondération qu'on met entre l'importance des forces de ton équipe et le nombre de ses faiblesses, l'importance de ses faiblesses, si elles sont aussi, elles peuvent être très peu, mais très facilement exploitables. Est-ce que c'est pas cette pondération la problématique centrale autour
si,
des
Si, c'est
players.
L'équilibre. Et c'est aussi dans quel domaine tu es élite. C'est ça, on en revient là. Pour un peu revenir sur ce qu'a dit Tom, par rapport à l'attaque, il y a aussi le phénomène, on en a beaucoup parlé, les ISO augmentent. Mais pourquoi? Parce que c'est Daryl Morey qui le disait. Mécaniquement, une ISO, c'est l'action où statistiquement, t'as le moins de chances d'avoir une perte de balle, ce qui est la pire finition possible. Un tir raté, au pire, il y a un rebond, tu reviens, une perte de balle, t'es mort. Là où un jeu de passe te rend beaucoup plus vulnérable à des pertes de balles. Et pour un peu citer, et du coup rebondir sur ta question, j'ai cité Daryl Morey, je vais citer un autre GM, Bob Myers, qui disait dans la Sloan Conference, voilà la grande messe des analytics, qui disait tout simplement, en playoff, la différence, elle est très simple. Si tu sais faire une seule chose, t'es éliminé. Tu sais juste shooter. On le fait pas pendant la saison régulière, mais on sait ton shoot, on sait que tu veux prendre ton shoot dans le corner, donc moi mon coach va faire en sorte que ton mec dans le corner, il fasse rien du tout. C'est ça la différence. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Si t'en as qu'une seule, et c'est vraiment pas une blague, hein, mais sur le panel, il y avait Paul Pierce, qui prenait l'exemple de Paul Pierce. Et en fait, il disait, en gros, moi, si j'ai à défendre Paul Pierce, je peux pas retirer une chose de son jeu, parce que je sais que si je retire ça, bah lui il va partir en pénétration, il va step back ou il va jouer dos au panier. Tu peux pas retirer ça. Donc collectivement, si pour répondre à ta question au niveau de la pondération, c'est tout simplement, si je te mets le premier uppercut, comment tu réponds? Est-ce que tu es élite dans un seul domaine ou est-ce que tu es capable de faire plusieurs choses? C'est pour ça que moi j'irais pondérer un peu cette idée de ce que vous avez dit précédemment, en gros. J'arrive plus à le dire dans une phrase, donc c'est un petit peu embêtant. Mais cette idée selon laquelle c'est vraiment de l'adaptation et l'idée, j'arrive vraiment pas à vous pouvez continuer les gars. J'arriverai à résumer ça après, mais.
Il y a pas de souci. Mais du coup, je vais reprendre cette idée d'être élite dont tu parles, parce que là, on a beaucoup parlé de l'ISO, notamment. Il y a des joueurs. Alors, ça remonte à quelques années puisque ça a un peu évolué. Mais moi, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est le parallèle entre un joueur d'ISO élite type Kyrie Irving. Et un joueur d'ISO type DeMar DeRozan. Mais j'y reviendrai, vas-y Ben, donc tu l'as.
Non, c'est pour ça, moi je suis désolé, c'est problème de mémoire à 24 ans.
Vas-y.
C'est pour ça, moi, là où j'étais pas d'accord, c'est que pour moi, l'étiquette, et je suis désolé, je grille un peu la suite, mais l'étiquette équipe de saison régulière, on la met toujours a priori. On dit toujours, cette équipe-là, c'est une équipe de saison régulière, jamais a posteriori. J'ai jamais entendu parler du Thunder d'Oklahoma City période Paul George, Russell Westbrook comme une équipe de saison régulière. Pourtant, elle en a toutes les caractéristiques.
C'est vrai.
Mais on n'en a jamais parlé dans ces termes-là. Donc, je pense que plus qu'un style de jeu, on en reparlera, mais c'est aussi, quand t'as moins de stars, directement, t'es étiqueté comme ça. Quand tu as peut-être pas les qualités athlétiques, tu es étiqueté comme ça. C'est toujours, pour moi, il n'y a pas un style de jeu, c'est plutôt une étiquette qu'on va mettre a priori, mais je te laisse continuer.
Non, mais très bien, je vais utiliser ça, on va avancer au niveau de l'équipe de saison régulière, je reviendrai sur le cas Kyrie Irving notamment, sur les équipes de saison régulière et les équipes de playoff. C'est vrai que c'est des définitions qu'on entend régulièrement, des étiquettes qu'on met sur des équipes qu'on met ou non, d'ailleurs, hein, comme tu viens de le dire. Maintenant, il va falloir définir, est-ce que ça existe, est-ce que c'est vrai, et qu'est-ce que ça englobe. Moi, pour faire une introduction, pour moi, il y a deux définitions de l'équipe de saison régulière. Il y a celle traditionnelle qui est l'équipe que les gens attendent, voient en saison régulière à faire de bons résultats, attendent en play-off. Ils ont une certaine ambition en play-off, mais ils n'atteignent pas forcément ce à quoi on peut s'attendre. Donc, on va penser peut-être au Jazz. On va y revenir, évidemment. Et il y a l'autre type d'équipe. C'est d'ailleurs une des réponses qu'on a eues quand tu as posé la question sur Twitter à nos auditeurs. Des équipes qui sont construites pour accrocher les playoffs, c'est-à-dire qu'en saison régulière, ils vont gagner des matchs, ils vont être en playoffs. Alors, c'est peut-être des profils qu'on voit plus souvent à l'Est, on y reviendra peut-être, mais je pense notamment aux Pacers, qui n'ont pas d'ambition très élevée en playoffs. On passe un tour, deux tours, c'est très bien, mais c'est pas très grave si on se fait sortir non plus. Mais, par contre, il faut qu'on fasse les playoffs. Donc, il y a ces deux équipes qui sont peut-être limite contradictoires, parce qu'il y en a qui veulent aller le plus loin possible, et d'autres qui sont là juste pour faire une bonne saison régulière, et très bien, on sera très content. Tom, je vais te donner la parole à toi maintenant. Comment toi tu définis une équipe de saison régulière, une équipe de play-off? Est-ce que ça a du sens déjà pour toi?
Oui, pour moi ça a du sens parce que t'as deux jeux qui sont totalement différents. Comme on le disait, t'as deux jeux qui sont totalement différents. Et moi je définirais vraiment, d'ailleurs je l'ai noté, ma définition de l'équipe entre guillemets de play-off. Pour moi l'équipe de play-off c'est une équipe flexible, polyvalente des deux côtés du terrain, capable de maximiser de ses forces de des deux côtés tout en minimisant ses faiblesses de l'autre.
C'est poétique.
C'est beau, ça peut rentrer dans le Larousse.
Donc pour moi c'est ça, voilà. Donc pour moi c'est ça pour l'équipe de play-off. Et en fait pour les équipes de saison régulière, moi là où j'ai des problèmes avec cette définition là, c'est que ça dépend pas forcément de toi, ça dépend aussi de qui tu affrontes en fait. Ça dépend vraiment de qui tu affrontes. Après c'est vrai que un peu en contradiction avec Ben sur la notion de style de jeu, t'as certaines équipes par exemple le Jazz. Si tu prends le Jazz et Phoenix, qui sont les deux équipes qui sont aujourd'hui en tête de la conférence Ouest, je pense que t'as je dirais que tu auras 60% des gens qui te diront que Phoenix est une équipe plus de playoff que le Jazz par rapport entre guillemets au style de jeu, Chris Paul, Devin Booker, l'isolation.
Mais tu cites des joueurs
pick and
pour
roll,
moi, pour
finir
moi,
à mi-distance et tout
en
ça.
En fait, c'est là
oui,
que tu cites des joueurs.
Les joueurs sont l'essence de ton équipe puisque tout part de tes meilleurs joueurs en playoff. Ce sont les meilleurs joueurs qui sont le moteur de ce que tu vas produire.
Donc c'est une étiquette qu'on accole selon à l'équipe, mais en partant du joueur. Je suis désolé, pour moi c'est toujours comme ça.
Je pense que ça parle surtout du meilleur joueur. Ça parle surtout
d'accord,
du meilleur joueur
d'accord.
Et jusqu'où ton meilleur joueur est capable de t'amener par rapport à ce que tu as construit autour de lui. Tu vois, si on revient par exemple sur le DH20, encore une fois le DH20, excellent épisode. N'hésitez pas à aller écouter les deux parties. Le DH20, Rudy Gobert et Donovan Mitchell, ils y sont pas.
Mitchell était pas loin, mais oui, effectivement.
Si, Mitchell y est.
Mitchell,
il était pas loin, mais il
était
pas.
Mitchell, il est tout en bas, mais il y est. Il doit être genre 17, 18.
20?
Ouais, il y est.
Ouais.
Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. En gros, ils sont pas dans l'élite.
Ils sont pas dans le top 10. Ils sont pas dans le top 10. Alors que, tu vois, en saison régulière, Rudy Gobert, tu peux dire que c'est un joueur top 10 de saison régulière parce qu'il apporte des deux côtés du terrain. Parce que le niveau défensif qu'il te donne en termes de production, ça t'apporte un niveau plancher extrêmement haut. Le souci, c'est que en playoff, vu que c'est un style de défense qui est différent, tu vas privilégier des profils un peu, par exemple, à la Bam Adebayo, des profils un peu à la Anthony Davis sur le poste 5, qui sont des pivots qui sont certes pas forcément élites à la protection du cercle et la protection de la raquette, mais qui ont un jeu qui englobe en fait des qualités dans énormément de secteurs. Donc du coup, tu vas privilégier ça parce que tu vas perdre moins sur d'autres aspects que Rudy Gobert où tu es élite dans un secteur, mais où tu ne seras pas forcément dans d'autres secteurs où tu peux potentiellement te faire attaquer.
Ouais, c'est intéressant ce que tu pointes et justement, je vais relancer Ben là-dessus, notamment sur... comment dire, l'image qu'on donne à des équipes en fonction de leur style. Tu as évoqué à juste titre, je trouve, les Suns en contradiction par rapport au Jazz. Donc les Suns qui ont une équipe peut-être, j'allais dire, plus flashy offensivement, avec, comme tu as dit, Devin Booker, avec un Chris Paul en tant que général, là où le Jazz a une identité, en tout cas ressentie, d'une équipe défensive, même si cette année, ils sont très très forts offensivement. Et donc, est-ce que on est d'accord avec ça, Ben, sur les équipes de play-off, ce sont... des équipes, disons,
Donovan Mitchell, 19e du DH20. Juste, j'ai vérifié 19e. Alors, par rapport au style, moi, c'est mon grand argument. Je pense que plus que le style, parce que c'est intéressant, je parle des réponses qu'on a eues au tweet, qu'on a pu donner. Les réponses qu'on a eues au tweet, c'était parfois des mentions de style de jeu, mais qui n'étaient pas du tout pareilles. Il y a un moment, on nous a parlé de défense, et à un moment, on nous a parlé d'attaque. Alors, je pense que oui, du fait qu'il y a des créateurs sur la ligne extérieure, on va typiquement donner, on a dit typiquement, pour la première fois du podcast, on nous l'a noté dans le questionnaire, c'est des équipes à qui on va donner plus de crédit, je pense. Mais je pense que la base du crédit reste sur Chris Paul. C'est-à-dire que, prenons les Raptors, le changement de perception des Raptors entre eux, et je vais te introduire DeMar DeRozan, entre DeMar DeRozan et Kawhi Leonard, autour ça reste pareil, mais c'est un accélérateur de particules, Kawhi Leonard. Donc du coup, je vois Tom Dodlin, mais là, est-ce que t'as déjà entendu, une fois que Kawhi Leonard est arrivé aux Raptors, la notion des Raptors comme une équipe de saison régulière? Disparu.
C'est pas que Kawhi Leonard, en fait. C'est Kawhi Leonard, Danny Green, Marc Gasol. C'est pas que Kawhi Leonard.
Oui, alors il y a ces changements-là, mais pour moi, ça se base uniquement sur la star. Je reviens sur mon exemple OKC. On ne parlait jamais d'OKC comme une équipe de saison régulière parce qu'ils avaient un ancien MVP et parce qu'il y avait Paul George qui avait fait des choses en playoff à l'Est. Alors que c'était une équipe qui, par son profil, si on revient sur le profil, avait les caractéristiques d'une équipe qui allait se vautrer en playoff. Mais, et moi le premier, on disait quoi? Ah, OK, si, équipe de playoff. Hein. Non, ils se sont vautrés deux fois, donc...
Oui, sur cette histoire de profil de playoff, a priori, c'est assez intéressant. Je lisais dans nos recherches pour ce podcast, alors un article qui a quelques années maintenant, mais qui était quand même assez intéressante sur justement un modèle qui avait été fait sur l'expected playoff wins, donc le nombre de victoires attendues en playoff, et voir donc quelles équipes, selon leur profil, gagnaient plus, enfin performaient un peu plus, même si je sais que c'est par exemple un terme que n'aime pas trop Tom, mais en tout cas avaient plus de victoires que ce à quoi on pouvait s'attendre, et comparer par rapport à leur style. Et donc parmi les quelques profils qui se dégagent, contrairement à ce qu'on peut penser a priori, en moyenne, les équipes qui ont un gros offensive rating sont basées sur une grosse attaque, performent un peu moins que les équipes sont basées sur une grosse défense, notamment, ce qui pourrait être contre-intuitif par rapport à ce qu'on disait sur les stars qui sont capables de mettre des paniers. Ce qui pondère ça, c'était l'efficacité des tirs. C'est-à-dire que les équipes qui ont une grosse efficacité, un efficiency field goal percentage élevé, elle continuait de performer. Et on revient donc sur cette histoire de star, avec DeRozan d'un côté, Ben, merci de me l'avoir réintroduit, et donc le Kyrie Irving que je voulais évoquer juste avant, où DeRozan était un scoreur aux Raptors notamment, un scoreur pas très efficace et qui prenait des shoots assez compliqués, notamment à mi-distance, et donc avec une efficacité qui n'est pas très élevée, là où Kyrie Irving fait partie de ces joueurs élites, tu le disais Ben, c'est-à-dire pas bon, mais élite, dans la capacité à se créer des shoots en isolation, en un contre un, à créer le décalage, et donc avec une grosse efficacité. Et c'est là, peut-être, où se fait la perception de la star qui fait passer un cap, le joueur de saison régulière par rapport au joueur de play-off. Et justement, le cas OKC que tu évoques depuis tout à l'heure, pour moi, il est criant, parce que eh ben, Russell Westbrook, c'est le profil parfait du joueur de saison régulière, a priori. Et je sais que Pierre m'en voudra un petit peu, mais pour moi, Russell Westbrook, et par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on limite aussi les transitions, Russell Westbrook est un joueur qui jouait beaucoup sur les transitions, qui n'a pas une grosse efficacité. Voilà. Et aussi, à autre dernier point aussi de cette étude que je trouve intéressant, comme ça vous permet d'avoir plusieurs pistes, les équipes qui ont un gros pourcentage d'assists, c'est-à-dire qui jouent très collectif, et on en parlait avec le Jazz, performent bien, ce qui amènerait à penser que le jeu d'équipe peut être au moins aussi important que les superstars, contrairement à ceux qu'on peut parfois dire. En tout cas, là, on parle de play-off. Attention, je mets un petit bémol sur cet article. C'est-à-dire qu'ils performent bien en play-off, ça ne veut pas dire qu'ils gagnent. Il y a une différence entre surperformer en play-off et remporter le titre NBA.
Et je pense qu'on a vu le même, et il date de quoi? De 2-3 ans, non?
2015, ouais, 2016, je crois.
On est avant l'explosion du 3 points, héliocentrisme, etc. Je pense qu'il y a quelques petits trucs. Par contre, je pense toujours que le fait d'être une bonne défense en saison régulière est important, pour la simple et bonne raison que, vu qu'on attaque plus en saison régulière, si t'es une bonne défense en saison régulière, ça veut dire que t'es forcément une bonne attaque parce que tu réussis à t'équilibrer. Là où les équipes, on pense à Portland cette année, qui sont très haut d'un côté et très bas de l'autre, ben, quand c'est en attaque, elles peuvent se qualifier en playoff. Quand c'est en défense, on pense au Magic, ils l'ont fait certaines années. Si tu es très haut dans une catégorie, très bas dans l'autre, et si la catégorie où tu es haut, c'est la défense, tu passes pas en playoff. Ça marche pas.
Tom, un avis sur ces profils a priori d'équipe de play-off, équipe de saison régulière?
Vous avez déjà tout dit, hein, mais si on refait le parallèle avec le Jazz, par exemple, si on prend les indicateurs statistiques, le Jazz a tout le profil statistique pour être champion NBA à la fin de l'année. Si on fait juste le profil statistique, attention, le profil statistique de saison régulière, parce que voilà, ils ont plus 12 de net rating cette saison. Je suis remonté du coup face à l'autre ligne de glace en enlevant la partie guard Beachline. Donc je suis remonté du coup depuis les années 2010 pour voir quelles équipes avaient un net rating sur toute une saison qui était supérieur à 10. Il y en a pas beaucoup. Accrochez-vous, il y en a pas beaucoup. Alors, on a le OKC de 2012-2013 dont Ben avait parlé une fois dans l'un des podcasts des meilleures équipes qui n'ont pas de titre. On a les Warriors du coup de 2014-2015, donc le premier titre où ils battent les Cavs avec LeBron James qui joue avec Moz Goff et Dilavedova. Il ne faut pas l'oublier ça. Ensuite, on a les Warriors et les Spurs de 2016, deux équipes sorties par OKC. Attention, l'OKC, le fameux OKC 2016, une équipe qui peut laisser pas mal de regrets. Désolé, hein, les fans de OKC. Pierre, je te salue.
Ils prennent difficile de ce podcast.
c'est vrai.
C'est ça. Après, on a les Warriors de 2016-2017, donc la première année de Kevin Durant, donc qui était une équipe, c'était
bonne petite équipe.
Franchement, je pense que c'est l'équipe la plus forte que moi j'ai pu voir jouer en direct, je pense, hein, clairement. Et puis on a, si on prend l'exemple par exemple des Bucks de l'an dernier, ils étaient juste à 9.8. Le Jazz est à 12. Le Jazz est à 12. Donc quand tu prends les indicateurs statistiques, le Jazz a le profil de champion NBA. Et quand tu vas plus loin, toujours dans les indicateurs statistiques, et tu regardes par exemple face aux équipes qui ont un net rating top 10, le Jazz est premier à plus 9, Phoenix est deuxième, ils ont plus 5. Donc il y a quand même de la substance. Et je pense que ce qui fait le plus peur en fait sur le statut en fait du Jazz, c'est les éléments passés qu'on a vus, que l'équipe avait du mal à reproduire exactement le même jeu face aux Warriors, face à Houston, et qui a eu un peu de mal face aux Nuggets. Alors oui, comme je le disais en off, on sait qui se sont fait remonter de 3-1, mais ils menaient quand même 3-1. Faut pas l'oublier, ils menaient quand même 3-1, et tu mènes pas 3-1 par hasard. Et autre chose qui va être aussi importante, c'est la notion de match-up, puisque les types d'équipes qui auraient pu poser problème au Jazz ne sont pas forcément dans leur bracket. C'est-à-dire que parmi les sept grosses équipes dominantes de la Conférence Ouest cette saison, si on prend par exemple le Jazz, bon, ils peuvent pas se jouer eux-mêmes, mais Phoenix, les Lakers, les Clippers, Denver, Portland et Dallas, pour arriver en finale de conférence, ils n'auront qu'à jouer qu'une seule des six autres équipes. Là où l'équipe qui devront les affronter, qui devra affronter le Jazz en finale de conférence, devra au moins jouer deux de ces équipes-là avant de jouer le Jazz. Donc je pense que c'est un avantage qui est pas négligeable.
Un avantage qui peut être un peu fourbe hein, quand même, parce que quand on parle de répétition et de trouver son identité, ses adaptations pendant les playoffs, ça peut aussi se retourner contre soi, même si ça reste quand même un avantage, je pense. Ben, je te relance là-dessus, le profil statistique du Jazz, deuxième offensive rating, troisième defensive rating, premier net rating largement, comme le disait Tom. Il y a tout sur le papier pour qu'on les considère comme les favoris, les clairs favoris pour le titre, et pourtant, il y a une réticence qui persiste. Pourquoi ?
Je vais penser à la question d'un auditeur quand on avait posé, il y a quelques semaines, proposez-nous un sujet, qui nous avait posé une question. On pouvait pas faire un podcast dessus, ça aurait été extrêmement théorique, mais à quel point vous jugez 2021 comme une saison normale? C'est-à-dire, quand Tom, tu m'as énuméré les équipes, je me suis dit, avec tout le respect que j'ai pour Utah, ils sont pas dans le même cours.
Non, ils sont
là,
pas
tu me cites, tu me cites les meilleures équipes de la décennie, des équipes qui sont all-time. Le Jazz est peut-être all-time sur cette saison régulière, mais moi je tiens à rappeler quand même certains éléments. Alors l'absence des blessures, le fait que, alors c'est peut-être un petit détail, mais Utah est la seule franchise NBA qui a pu jouer avec du public depuis le début de la saison. Alors on sait que historiquement Utah reste, c'est difficile d'aller gagner à Salt Lake City, voire très très difficile. Mais je pense qu'ils ont tous ces éléments-là. Après, pour répondre à ta question, Adrien, je pense deux choses. Le vécu sur les playoffs reste un élément prépondérant. On veut voir une équipe qui a déjà fait en playoff pour lui donner du crédit. Et je pense aussi, pour retomber sur mes pieds, la question il y a cette vraiment question du leader charismatique qui emmène l'équipe. Et je pense que collectivement, on n'est pas prêt à dire, oui, ils sont favoris pour le titre, une équipe avec, où le meilleur joueur, c'est 1A, 1B entre Mitchell et Gobert. Même si sur le profil statistique, je pense qu'ils sont all-time élite, mais Personnellement, si on glisse la conversation sur ce sujet-là, je le mets pas aujourd'hui en favori à l'Ouest. Je trouve que l'Ouest, comme l'a dit Tom, dépend énormément du match-up. Et là où je les mets au-dessus des Suns, si les Lakers sont pas à 100%, je les mets au-dessus des Lakers. Pour moi, les Nuggets restent un match-up difficile et je parle même pas des Clippers.
Justement, Tom, je vais te relancer sur cette idée de match-up et de stars. C'est vrai qu'on a beaucoup évoqué, donc là, tu en as reparlé, Ben, les espèces de visages, on va dire, des équipes. Et tu disais donc 1-1-B, c'est une chose. Tom, je te laisserai développer si tu veux sur ce truc-là, mais aussi Donovan Mitchell, Rudy Gobert, t'es sur un arrière et un pivot. Et un pivot défensif, qui n'est pas une des anomalies type Jokic que t'as évoqué rapidement, Ben, pour les Nuggets. Et donc, dans ces match-up à l'ouest, où t'as des Kawhi Leonard, des LeBron James, voilà, ce fameux poste de l'aile qui est extrêmement fort. Est-ce que plus que le niveau 1A, 1B de Donovan Mitchell et Rudy Gobert, c'est pas leur profil en eux-mêmes, le profil de joueurs, qui sont une problématique dans l'optique des playoffs, notamment à l'Ouest?
Ouais, moi je dirais en termes de profil de joueur, je pense que par exemple le duo Kawhi Leonard Paul George, il peut poser problème. Alors certes pas en tant que joueur intrinsèque, ce sont des joueurs qui sont très très forts, et même si tu vas avoir des joueurs à le opposer, bah malgré tout le respect que j'ai pour par exemple Royce O'Neal ou Joe Ingles ou même Bogdanovic, hein, c'est pas la même essence et race de joueur. Mais en fait
la fanbase du Jazz insiste beaucoup sur le fait que Royce O'Neal peut garder ces mecs-là. Je suis pas d'accord en ayant vu les matchs, mais ils insistent beaucoup là-dessus.
Bah, on verra s'ils ont l'occasion de les rencontrer. Mais en fait, c'est le type de joueur et le type de jeu que ces joueurs-là. C'est-à-dire que ce sont des joueurs qui vont faire ce que la défense du Jazz, ne contre pas. C'est-à-dire que, avoir une équipe qui dissuade les shoots à 3 points et qui dissuade les tirs au cercle, ben ça fonctionne quand tu joues contre une équipe qui va souvent au cercle et qui prend peut-être des shoots à 3 points. Les Clippers, eux, ils vont dans des zones où le Jazz veut que tu ailles. Donc du coup, par exemple, si toi ta force c'est de protéger l'arceau, mais qu'en fait l'attaque de ton équipe, et par exemple Paul George et Kawhi Leonard, ils font très bien ça. Eux, ça, ils vont au cercle, mais Paul George, Kawhi Leonard, ils peuvent aller au cercle, mais c'est pas leur truc de prédilection. Leur truc de prédilection, c'est, ils arrivent, machin, un contre un, pick and roll, je me décale légèrement, petit sneak pick and roll, boum, mi-distance. Sauf que le Jazz, eux, le mi-distance, ils sont heureux de te le laisser. Et au final, le problème, c'est que ça devient que des shoots d'entraînement, entre guillemets. Ça devient des shoots d'entraînement. Et avec ce niveau de joueur-là, tu peux pas te permettre de leur laisser des shoots d'entraînement comme ça. Et en fait, ce qui peut se passer contre cette équipe-là, c'est le côté contre-nature. C'est qu'au bout d'un moment, même si l'ordinateur te dit, laisse-toi le tirer à mi-distance, mais si le mec, il en met 4-5, ben, ta défense va réagir et va faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire pour contrecarrer quelque chose qui ne lui pose pas de problème à la base. Et c'est là où ça peut vraiment enchaîner avec une spirale où les joueurs ne savent plus trop quoi faire globalement dans le système, et ça peut vraiment ouvrir des brèches. Donc je pense que les Clippers, c'est vraiment un match-up qui peut leur poser énormément de problèmes. Et on l'a encore vu, plus que la défense en switch, notamment quand ils font jouer Markif Morris en poste 5, avec Nicolas Batum et tout le reste des joueurs, ben en fait, c'est surtout, même offensivement, la défense du Jazz n'est pas faite pour contrecarrer ce que les Clippers font bien, notamment dans le jeu à mi-distance.
Je vais rajouter un petit détail à ça, Ben, pour te faire réagir, puisque effectivement, là, tu as focalisé, Tom, sur le match-up des Clippers. Et est-ce que c'est pas là une des limites des stades de saison régulière, enfin, quand on les prend de manière globale, hein, pas quand on va aller chercher de manière avancée? Parce que si on regarde la défense du Jazz cette année, ils sont très bons. Ils sont la troisième meilleure défense sur les ISO, donc ce qui est normalement une des forces, voilà, des équipes dont tu as cité, de certains match-up. Ils sont très bons sur la défense du pick and roll et très bons sur la défense des spot-up, qui sont grosso modo les trois armes majoritaires qu'on va retrouver en play-off. Pourtant, comme tu l'as rappelé, Tom, tout à l'heure, en play-off, la différence par rapport à la saison régulière, c'est qu'on élimine les mauvaises équipes. Et donc, les statistiques que tu peux biaiser en éclatant les mauvaises équipes, entre guillemets, hein, bien sûr, les moins bonnes équipes, qui donnent l'impression que tu es très bon dans certains aspects défensifs, est-ce que bah, justement c'est pas un trompe-l'œil et à l'arrivée au play-off c'est là où les match-ups sont exploités et on a l'impression que ça fait mentir le profil statistique.
Si, si, c'est totalement un trompe-l'œil. C'est pour ça, personnellement, par exemple, je pense qu'on l'a tout fait dans la préparation. J'ai pas regardé, désolé Tom, j'ai pas regardé Utah contre Memphis. J'ai regardé Utah, par exemple, contre Boston. Et Boston, il y a un parallèle à faire avec le duo d'ailier et ce qu'ont pu faire. C'est un match qu'ils perdent. C'est intéressant parce que Boston perd son match contre Utah. C'est parce que Utah met tout. Mais dans l'idée, quand on regarde le premier carton de ce match, qu'est-ce qu'ils font? Pick and roll haut pour sortir Rudy Gobert de la raquette. Qu'est-ce qu'ils font? Tu parlais des actions bien défendues, Adrien. Il sort Rudy Gobert sur le pick and roll. Qu'est-ce que fait Jalen Brown tout le premier carton? Il prend des flotteurs. Flotteurs. Et vu qu'on est sur un joueur, on ne demande pas à un joueur lambda de prendre un flotteur. Là, on parle d'un all-star. Forcément, il va les mettre. Alors, il en met 2-3 qui sont lunaires. Enfin, franchement, il m'a impressionné. Mais si tu sais du flotteur du mi-distance, c'est des mecs qui sont à l'aise avec ça. Parce qu'on est sur une gamme de joueurs qui est supérieure. Donc forcément, oui, ça peut être biaisé parce que tu fais pas tous les jours des iso contre Paul George, Jason Tatum, Kawhi Leonard et Jalen Brown. T'en fais aussi sur des joueurs d'un moins bon calibre. Mais c'est vrai que déjà, t'as cet aspect-là. Aussi, Tom parlait tout à l'heure de, on va moins chercher le match-up, le mismatch en saison régulière. Miami l'a fait. Miami fait quoi dans la fin de match contre le Jazz? Bogdanović. Pick and roll, Butler, Bogdanović. Butler, Bogdanović. Ils font quoi après? Dragic, Bogdanović. Dragic, Bogdanović. Ça, c'est quelque chose qu'ils verront en playoff, qu'ils ont pas vu dans la bulle parce que Bogdanović n'était pas là. Mais si Royce O'Neal a vraiment, je pense qu'il a un peu ce potentiel défensif, et il le prouve, quand tu joues des équipes où il y a deux bons ailiers, ils vont attaquer Bogdanović parce qu'ils savent que c'est là où est la faiblesse. Donc je pense que oui, ça se voit pas dans les statistiques de saison régulière, mais ça se verra en playoff.
On approche du coup presque de l'heure de podcast, même s'il nous reste quelques minutes. Mais justement, j'aimerais que nous laisser un petit peu de temps pour conclure, Tom. Justement, après tout ce qu'on a dit sur le Jazz, qui a cette image, à tort ou à raison, on va voir, en tout cas cette image d'équipe de saison régulière qui est tout de même très dominante. Tu l'as rappelé dans des statistiques avec d'autres équipes de très haute dimension, on va dire. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que le Jazz peut faire mentir et arriver à posteriori à s'effacer cette étiquette d'équipe de saison régulière cette année, notamment en allant un peu plus loin? Je vois, Ben, tu lèves le doigt.
Non, je veux juste dire, je peux prolonger ta question.
Je t'en prie.
On met la barre où?
Ah, on met la barre où pour définir s'ils font une bonne performance en playoff? Bonne question. Voilà, Tom, débrouille-toi avec cette longue question et plein de pièges.
Pas de problème. Moi, je pense que si le Jazz ne va pas en finale de conférence cette saison, c'est une déception. Ce serait une grosse déception par rapport au match-up parce que en gros comme je l'ai dit précédemment, ils auront juste une série difficile pour y arriver, c'est-à-dire une série où ils sont pas totalement favoris pour y arriver. Je pense que ils ont le calendrier le plus facile normalement, ils vont finir en premier, je pense qu'ils vont finir en premier. Donc s'ils finissent premier, ils vont prendre le 8e qui il est pas 8e
pour le vainqueur du play-in,
séparation. Ouais, mais même le vainqueur du play-in, ça va être le 6-7, le 7-8, pardon. Ouais, le 7-8 au deuxième tour ou le comment ça s'appelle? Le 4-5.
Oui, non, mais si un pays, je veux dire,
le deuxième,
soit
le 8e. Le 4-5.
Oui, c'est ça.
Soit le 4-5, soit le 8e. Mais même si tu prends le play-in et qu'ils prennent le 8e, en gros, quand tu regardes les équipes qui sont à la lutte pour la 8e place aujourd'hui, il y a Golden State, Memphis, San Antonio. Donc si le Jazz ne passe pas, là c'est une anomalie. Si le Jazz ne passe pas, il y a une anomalie. C'est une anomalie claire et nette. Ensuite, tu vas arriver au deuxième tour et c'est là en fait où il va falloir passer et c'est là où ils seront peut-être un petit peu moins favoris. Mais normalement, c'est juste une série en gros qui va être disputée pour arriver en finale de conférence. Donc pour moi, s'ils vont pas en finale de conférence, c'est un échec. C'est un échec cette saison.
Je peux prendre le costume de présentateur.
Vas-y Ben, je t'en prie.
Et prolonger à poser de la question à toi, Adrien. Je donne juste à Tom. Et est-ce que c'est possible dans ton esprit qu'ils aillent en finale? Je pose cette question-là parce qu'on a lancé un sondage sur le compte Twitter du podcast et on a vu quoi, en gros? On a demandé jusqu'où peut aller le Jazz. On a vu qu'en gros, premier tour, tout le monde disait, ouais, ils vont passer le premier tour, mais personne pratiquement les mettait en finale.
En finale NBA ou en finale de conf?
NBA.
Finale NBA, ça semble compliqué par rapport à ce que tu disais, Ben. Moi, j'ai les deux équipes de Los Angeles. Alors, évidemment, en mettant de côté les blessures, le Covid, etc. Là, on parle tout le monde à pleine puissance. J'ai du mal à les voir passer les deux équipes de Los Angeles. Pour le reste, comme tu le disais, il me semble en off, Denver, la série contre Denver l'année dernière, et comme tu l'évoquais d'ailleurs Tom il y a quelques instants, ils étaient devant et ça se joue à rien à un shoot de Mike Conley.
Ouais.
Donc, si Mike Conley met ce shoot, on en parle autrement du Jazz. Donc, je pense que même si effectivement Jokic qui est d'ailleurs à un niveau stratosphérique en ce moment, hein, je le glisse comme ça, mais c'est potentiellement un MVP alors drafté beaucoup trop loin. Mais bon, on y reviendra probablement. En tout cas, voilà, Denver, même si Jokic est un match-up compliqué, notamment pour Rudy Gobert, je pense que le Jazz est capable de les sortir. Donc, pour moi, je suis dans le même esprit que Tom. Tu dois viser la finale de conf. Même si ça va pas être facile, notamment au deuxième tour, hein, parce qu'on sait qu'à l'Ouest, t'as toujours des équipes compliquées. Après, la finale NBA, on a évoqué les deux équipes de Los Angeles, c'est très dur. Ça peut aussi être Phoenix, hein, Phoenix qui est actuellement deuxième, mais à ce moment-là, ils pourront aussi peut-être affronter Phoenix selon la fin de la saison. C'est faisable, mais en tout cas, je mettrai pas mes économies dessus, clairement.
Je vous rejoins un peu. Moi, je leur en veux pas s'ils tombent contre une des deux. Si malheureusement la fin de saison les amène à avoir une des deux Los Angeles au deuxième tour et que cette équipe est à 100%, je leur en veux pas. Parce que là, on en revient à la question du match-up. Bah là, s'ils prennent des Clippers à 100% ou s'ils prennent, on parlait de match-up Anthony Davis. C'est quand même pas mal, hein. Si on est sur le même niveau que la bulle, c'est quand même un gros problème. Je les ai vus un peu galérer sur le pick and roll Bam Butler. Là, c'est la version sous stéroïde, hein, qu'ils ont dans leur conférence. Donc, s'ils tombent contre une de ces deux équipes-là, je leur en veux pas. Pour moi, j'aimerais vraiment qu'ils jouent Denver parce que pour moi, un peu, Denver, ça serait un test.
La rédemption.
Les deux équipes, en réalité. Ouais, ça serait la rédemption, ça serait un test pour les deux équipes parce que moi j'ai vraiment foi en Denver avec l'ajout de Aaron Gordon. Donc par rapport à cela, okay. Ouais. Après je te rejoins Adrien, finale NBA c'est dur. À part s'il y a un scénario où ils peuvent aller en finale NBA sans prendre une des deux équipes de Los Angeles. Mais j'y crois pas à ça.
Je peux finir avec une question piège, s'ils vont en finale NBA, ils peuvent gagner ou pas face à la top équipe
non.
de l'Est?
Les Nets, c'est le pire. On en parlait avec Tom avant que t'arrives. Les Nets, c'est le pire truc pour eux. Kevin Durant est une machine à mi-distance. Kyrie Irving est une machine à mi-distance.
En fait, ils pourront pas. Je pense qu'ils pourront pas suivre offensivement.
C'est impossible.
Même si on enlève tous les éléments. Les Nets ne peuvent pas défendre. En fait, à ce niveau-là. Tu peux pas te ramener en playoff et avoir et ton meilleur joueur c'est le troisième joueur de la série, le quatrième joueur de la série.
Le quatrième même, ouais. Après c'est si c'est les Nets, c'est là on part du principe que c'est les Nets. Les Nets peuvent aussi, ça peut être Philadelphie, ça peut être Milwaukee.
Par contre si c'est notre équipe, les Bucks, ouais. c'est ce qu'ils veulent, hein. c'est ouais. vraiment ce qui. Mais je pense que si tu demandes à Kevin Durant aujourd'hui, tu lui proposes parmi les cadors à l'Ouest, il veut le Jazz. Je pense que c'est l'équipe qu'ils veulent.
Probablement. Mais je pense que ça fait une belle illustration de fin sur le profil du Jazz, l'image qu'a le Jazz de cette équipe de saison régulière, d'une équipe qu'on a presque envie d'affronter selon le profil qu'on a en play-off.
On n'a pas répondu à... Je suis désolé, Adrien, on n'a pas répondu à la question. Est-ce que c'est une équipe de saison régulière?
Comme tu dis, c'est une étiquette qu'on met a priori. Je t'en prie, Tom, je te redonne la parole après. Mais pour l'instant, en étant a posteriori des dernières années, ça ressemble fortement à une équipe de saison régulière avec des statistiques, comme on le disait, qui sont exagérées en saison régulière par rapport à ce qu'ils sont capables de produire en play-off. Après, moi, l'équipe de cette année-là qu'on a vu pour préparer ce podcast et qu'on voit en ce moment, je trouve que c'est une équipe qui est capable d'être une bonne équipe de play-off. Et moi, je crois qu'ils sont capables de faire les finales de conf, comme on disait. Donc j'espère pour eux qu'ils vont faire mentir cette image, en tout cas.
Ah, je pense un peu que non, cette saison... Pour deux choses, le niveau et l'expérience de Mike Conley, qui n'était pas du tout le même, et Bogdanovic, qui n'était pas dans la bulle, qui lui a déjà, quand il était à Indiana, a fait des choses plutôt intéressantes, notamment face à LeBron James en défense. Enfin, je pense que ces deux joueurs-là à un bon niveau plus le vécu de toutes les séries de playoffs, parce que on s'en rend pas compte, mais Donovan Mitchell, il est encore dans son contrat rookie, il est dans sa quatrième année, il a toujours fait les playoffs. Au bout d'un moment. Tu passes un peu le. Peut-être qu'ils ont besoin de gagner une série où ils sont pas favoris pour qu'on ait un peu ce déblocage de se dire, ok, le Jazz c'est une équipe un peu comme Denver, l'an dernier. Denver ça restait entre guillemets une équipe de saison régulière, même s'il y avait Nikola Jokic et Jamal Murray qui avaient montré des choses, par exemple face à San Antonio et face à Portland l'année d'avant, mais on n'avait pas vraiment de vu que c'était des équipes qui étaient loin des cadors, on n'avait pas vraiment pris ces moments-là comme les moments que Ben aime bien le dire. Enfin, ce que Denver, ce qu'ils ont fait avant contre Portland et ce qu'ils ont fait aussi contre les Spurs, voilà, Portland et les Spurs, c'était pas des équipes, voilà, ils vont en 7 contre les Spurs alors que les Spurs c'est une équipe qui leur était bien inférieure. Et puis ils vont en 7 aussi face à Portland. Et tu vois Portland qui a le skill set avec TJ McCollum qui prend le match à son compte et puis des gros passages de Rodney Hood, voilà, des joueurs qui avaient un peu d'expérience entre guillemets de playoff qui prennent le jeu à leur compte. Et là tu sens peut-être que cette année c'est peut-être le tour du Jazz cette année. Peut-être que le Jazz ce sera le Denver de l'an dernier.
Ben, toi aussi du coup?
C'est, je vais garder mon expression du début, c'est une équipe de saison régulière sous stéroïdes.
Très bien, voilà le mot de la fin, mais on va quand même leur souhaiter évidemment, hein, comme tu disais Tom, que ce soit leur année au moins de passer ce fameux cap, ce peut-être un déclic mental aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui peut jouer. En tout cas, on va le souhaiter au Jazz, aux supporters du Jazz également. On arrive donc à la fin de ce podcast, il fait encore jour hein, derrière, donc déjà c'est une bonne nouvelle, ça change, on vous remercie de nous avoir écouté.
Mais on peut pas sortir.
Ouais, on peut pas sortir, effectivement, on peut quand même pas sortir. Mais on vous remercie de nous avoir écouté donc de chez vous cette semaine, on espère que ce podcast vous aura plu. Comme d'habitude, les habitués connaissent le rituel, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, votre préféré, les plateformes de balado d'ailleurs pour reprendre l'expression de la semaine dernière. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter bien sûr, sur YouTube si vous voulez voir nos petites têtes et donc le jour en cette fin de podcast. On va se donner donc rendez-vous et bien la semaine prochaine bien sûr pour un nouveau podcast et d'ici là on vous souhaite une excellente semaine. Merci messieurs.
Merci à toi Adrien, bonne semaine.
Et bonne semaine à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.